Vous êtes sur RTL.
Et le journal, maintenant avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
À la une ce soir, à Joséphine Baker, la patrie reconnaissante, chanteuse, danseuse, résistante, elle est devenue il y a une demi-heure la première femme noire à entrer au Panthéon.
Dans ce journal également, Éric Zemmour, désormais lancé dans la course à l'Elysée. On vous expliquera aussi comment avoir un rendez-vous pour sa dose de rappel alors que la cinquième vague de l'épidémie prend de l'ampleur. Et puis un joyau de moins sur la couronne britannique, on vous explique tout ça en fin de journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
46 ans après sa mort, Joséphine Baker est donc entrée au Panthéon il y a une demi-heure. Cérémonie poignante en présence de nombreuses personnalités venues saluer cette résistante, cette artiste du music-hall. Première femme noire à entrer dans ce temple républicain, Emmanuel Macron lui a rendu hommage en fin de cérémonie.
Joséphine Baker ne défendait pas une couleur de peau. Elle portait une certaine idée de l'homme et militait pour la liberté de chacun. Sa cause était l'universalisme, l'unité du genre humain, l'égalité de tous avant l'identité de chacun, l'hospitalité pour toutes les différences réunies par une même volonté, une même dignité, l'émancipation contre l'assignation. Ce n'était pas un combat pour dire l'irréductibilité de la cause noire, non. Mais bien pour être citoyenne, libre, digne, complètement, résolument.
Le chef de l'État au micro de Sophie Orange pour RTL.
RTL Soir.
19h02. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est avec ces mots qu'Éric Zemmour s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle.
Annonce faite à la mi-journée dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux, mise en scène soignée, rappelant l'appel du 18 juin. Le polémiste assis devant une bibliothèque lit son discours face à un micro des années 40, le tout sur la 7e symphonie de Beethoven. Marie Mollet, bonsoir.
Bonsoir.
L'annonce de sa candidature, c'est fait. Quelles sont les prochaines étapes maintenant pour Éric Zemmour ?
Eh bien, la prochaine étape, c'est dans moins d'une heure, le plateau de TF1 pour expliquer sa candidature. Du très classique. Demain matin, première réunion du candidat avec ses troupes, puis on connaîtra enfin l'organigramme dans la semaine, c'est-à-dire qui fait quoi dans cette campagne. Alléluia, disent certains soutiens en interne, on avait zéro info jusqu'ici. L'apothéose, c'est censé être dimanche avec le grand meeting à Paris. Le zénith est trop petit, fait mine de se plaindre un membre de l'équipe. Ensuite, Éric Zemmour doit caler un déplacement de terrain à la campagne, dans une ferme, ou peut-être avec les pêcheurs de la Manche. Mais après le fiasco de Marseille, un soutien explique qu'Éric Zemmour cherche à fuir les grandes villes pour éviter les sifflets, les attroupements et les bad buzz. À l'horizon également, un voyage en Arménie pour travailler sa stature internationale. Franchement écorné après son passage à Londres, où aucun parlementaire n'a voulu s'afficher avec lui. D'ici là, il devra surmonter les obstacles, les sondages en baisse, la quête des parrainages, les ralliements pour l'instant inexistants et le plus dur, devenir présidentiable sans brutalité, dixit un proche, ni doigt d'honneur.
Marie Mollet du service politique de RTL, merci beaucoup. Les réactions à l'annonce de sa candidature ne se sont pas faites attendre. Le micro de Gaulle met le discours de Pétain, dénonce le patron du PS Olivier Faure. Une vidéo passéiste et crépusculaire pour la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen. Une déclaration à la présidentielle de 1965 se moque de son côté le député de la France Insoumise Alexis Corbière.
Et si le polémiste a choisi d'officialiser sa candidature aujourd'hui, ce n'est pas un hasard.
Les prétendants à l'investiture des Républicains s'affrontent ce soir pour un dernier débat avant l'ouverture du Congrès. Dès demain, les militants pourront voter et désigner leurs champions, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti ou bien Philippe Juvin. Concrètement, comment ça va se passer, Thomas Després ?
Eh bien, tout se déroulera en ligne. Un vote 100% numérique, comme pour la primaire des Verts, il y a deux mois. Dès 8h demain, les 139 918 adhérents, très précisément, pourront se connecter pour choisir leur candidat. Alors, à l'origine, il y avait 8000 inscrits de plus, mais tous devaient présenter un numéro de téléphone. Et figurez-vous que certains ont oublié. Résultat, ils ont adhéré pour rien. Et je vous rappelle que l'adhésion était tout de même à 30 euros par personne. Les résultats, eux, devraient être connus jeudi à 14h30. Et la campagne de second tour débute sur le champ, Une campagne éclair, hein, une petite soirée seulement. Y aura-t-il des meetings, peut-être une émission de télé avec les deux candidats qualifiés? Ce n'est pas encore vraiment décidé. Et pour être honnête, par superstition en coulisses, personne ne veut en parler. Une chose est sûre, vendredi matin à 8h, rebelote pour le second tour jusqu'à samedi 14h. À 7h, nous connaîtrons le candidat de la droite à l'élection présidentielle.
Les explications de Thomas Després pour RTL.
On en vient maintenant à 19h05 sur RTL. À cette alerte, l'alerte donnée par le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Avec 47 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, on pourrait dépasser, selon lui, le pic de la troisième vague d'ici à la fin de la semaine. Plus que jamais, il faut accélérer la campagne de rappel vaccinal, dit-il. 7 millions de Français ont déjà reçu leur troisième dose. Mais voilà, vous l'avez sans doute vous-même constaté, les créneaux sont pris d'assaut. Virginie Garin, je me tourne vers vous. Comment faire pour avoir un rendez-vous?
Alors déjà, il n'y a pas que les plateformes. Près de la moitié des injections, 45%, sont faites aujourd'hui en médecine de ville. Donc par les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, qui ne sont pas tous forcément sur Doctolib. Donc n'hésitez pas à les appeler, votre pharmacien de quartier, votre généraliste. Ils commandent leur dose en début de semaine. Hier et aujourd'hui, ils ont fait de grosses commandes et ils sont livrés vendredi. Donc il y aura de nouveaux rendez-vous possibles en fin de semaine. Ensuite, le ministère de la Santé a annoncé ce matin l'ouverture de nouveaux centres. Il y en a déjà eu 50 de plus en une semaine et 300 autres pourraient être créés. Ça va dépendre de chaque agence régionale de santé. Elles pourront aussi choisir d'augmenter les capacités des centres existants. Plus de 22 millions de doses seront livrées en France en décembre. Et si les plateformes ont été prises d'assaut ces derniers jours, il reste des créneaux. Plus de 300 000 sont encore disponibles et près de 700 000 vont être rajoutés avant la fin du mois.
Virginie Garin, merci beaucoup. Dans le même temps, la Haute Autorité de Santé ouvre la voie à la vaccination des enfants. Elle la recommande pour les 5 à 11 ans à risque et ceux qui sont au contact de personnes immunodéprimées.
Et la crainte désormais, c'est que cette cinquième vague vienne gâcher les fêtes de fin d'année.
Et pour les traiteurs, c'est déjà un peu le cas. Entre inquiétude et nouveaux protocoles sanitaires, les entreprises annulent les unes après les autres leurs commandes. Vous l'avez constaté à Nancy, Samuel Goldschmidt.
Et qu'importe la taille des traiteurs concernés, ce mois de décembre va donner des vertiges. Dans sa petite PME de 3 employés, Marie Sauvage raye les contrats les uns après les autres.
D'habitude, il y a pas mal de pauses, de festivités, de fin d'année. Et là, on en a 10 fois moins, quoi.
On vous donne l'argument?
Oui, la crise sanitaire. La crise sanitaire, du coup, toutes les restrictions.
On ne sait pas ce qui va se passer, mais on annule.
Voilà, c'est soit l'ARS qui demande d'annuler, ou soit des cas de Covid aussi dans les sociétés où il y a eu des clusters. Et même si c'est, par exemple, des grosses sociétés à Lille ou ailleurs, toute la boîte dans toutes nos nationales dit non aux festivités, quoi.
À Lorraine, réception, 30 salariés. Alexandre Laurent cherche encore quelques employés pour assurer ce mois de décembre qui s'annonce très étrange.
C'est très particulier en ce moment. On a beaucoup de clients qui ont beaucoup de demandes pour des événements de fin d'année, de petite ampleur. Mais on a dans le même temps beaucoup de clients qui se posent énormément de questions et qui, de leur côté, annulent d'autres gros événements. Les deux. On a autant de demandes que d'annulations. On travaille énormément, mais toujours avec du doute qui s'installe de plus en plus.
Et dans ce secteur d'activité où le doute se paye immédiatement, il a perdu 70 000 euros de contrat, rien qu'après la dernière conférence de presse d'Olivier Véran.
Samuel Goldschmidt à Nancy, direction l'Allemagne, à présent, elle aussi frappée de plein fouet par l'épidémie. Angela Merkel, son successeur Olaf Scholz et les chefs de région se sont réunis cet après-midi pour envisager de nouvelles restrictions. Léo Brauer-Potier, vous êtes à Berlin pour RTL. Le futur chancelier s'est dit favorable à la vaccination obligatoire.
Il est important que nous ayons une obligation générale de la vaccination, c'est une phrase rapide mais qui n'est pas passée inaperçue vu qu'elle sort de la bouche de celui qui devrait devenir la semaine prochaine le prochain chancelier allemand. Olaf Scholz à la manœuvre pour tenter de convaincre les régions qu'il faut maintenant rendre la vaccination obligatoire et il trouve un écho chez certains, à l'image de Stefan Weil, le ministre-président de la Basse-Saxe.
Pour obtenir une protection satisfaisante contre la Covid, il faudrait que 90 à 95% des adultes soient vaccinés et on en est loin aujourd'hui. C'est pourquoi cette discussion doit se tenir avec l'État et elle se tiendra. Je suis convaincu qu'au bout du compte, nous prendrons cette décision.
Car seul 68% de la population allemande est complètement vaccinée, l'Allemagne souhaite donc passer à la vitesse supérieure. Mais rien n'est encore fait, car pour rendre la vaccination obligatoire, le Bundestag, le Parlement donc, devra voter une nouvelle loi, ce qui prendra encore du temps.
Léo Brauer-Potier, correspondant de RTL à Berlin.
Allez, une pause et dans un instant, burn-out, audience surchargée, manque d'effectifs, plus de 50% des magistrats français se mobilisent pour réclamer davantage de moyens. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
19h11, la suite de votre journal sur RTL avec ce coup de gueule des magistrats face à la dégradation de leurs conditions de travail.
Deux mois après le suicide d'une jeune juge de 29 ans, 3000 d'entre eux ont publié une tribune dans le journal Le Monde. C'était il y a une semaine. Et depuis, le nombre de signatures augmente chaque jour à vitesse grand V, une mobilisation massive, Guillemette Franquet, est assez inédite.
Oui, il est exceptionnel hein, que les magistrats sortent de leur devoir de réserve pour dénoncer leurs conditions de travail, et surtout en si grand nombre. Sur 9000 magistrats en France, 4744 ont signé la tribune, c'est plus de la moitié. Leur principale revendication, le manque de moyens, et notamment de moyens humains. Les juges sont bien souvent en sous-effectif, c'est le cas du tribunal de Compiègne, où il manque 20% de juges. Maxime Alluz y est magistrat, et ses difficultés l'obligent à abattre quotidiennement un travail colossal.
Là, vous pouvez quand même voir qu'il s'agit d'un dossier qui est assez épais. Et pour cause, c'est un dossier de crédit et consommation. Et donc là, vous avez une banque qui demande une condamnation. J'ai aujourd'hui, selon mon référentiel de temps de travail, 2 minutes 46 pour vérifier que toute la législation au code de la consommation est respectée. Ce qui est évidemment complètement impossible. C'est notre quotidien hein, de déborder sur nos soirées ou nos week-ends pour pouvoir tenir des délibérés.
Selon Maxime Alluz, le sujet des effectifs a été écarté des états généraux de la justice, lancé fin octobre par le président de la République, d'où un sentiment d'injustice qui enfle.
Guillemette Franquet pour RTL. Le couple Fillon sera fixé sur son sort le 9 mai 2022. Le procès en appel pour les emplois présumés fictifs de l'épouse de l'ancien Premier ministre s'est achevé ce soir.
Avant de refermer ce journal, on va quitter la métropole et la météo un petit peu pourrie de Peggy pour vous emmener dans les Caraïbes.
Direction la petite île de la Barbade, plus petite encore que l'île de France, berceau de la chanteuse Rihanna et surtout... toute jeune république. Jusqu'ici, c'est Elisabeth II qui régnait sur ses 300 000 habitants. Mais voilà, 55 ans après son indépendance, l'île s'est complètement détachée de la couronne britannique. La première présidente de son histoire a prêté serment hier à minuit. C'était soir de fête à la Barbade-Marie-Billon.
Et oui, sur la place des héros nationaux, anciennement appelée Trafalgar Square, la fête a battu son plein toute la soirée. En remplaçant Elisabeth II par une présidente élue, les habitants de la Barbade coupent symboliquement le lien qui les rattachait à l'ex-empire britannique et à l'ère coloniale. Le port de la capitale, Bridgetown, était une plaque tournante du trafic d'esclaves. Le prince Charles est venu assister symboliquement à la transition et s'il n'a pas présenté d'excuses pour le rôle de l'Angleterre dans la traite, il a fait un pas inédit dans son discours.
Depuis les jours les plus noirs de notre passé et les terribles atrocités liées à l'esclavage, les habitants de cette île se sont forgés un avenir avec un courage extraordinaire.
L'étendard royal a été baissé et le drapeau de la Nouvelle République hissé. La chanteuse Rihanna, née sur l'île, a été consacrée héroïne nationale. La reine, elle, a perdu l'un de ses 16 royaumes, mais elle en comptait 32 lors de son accession il y a bientôt 70 ans. Elisabeth II a d'ailleurs envoyé un message d'amitié en souhaitant tous ses vœux à la Nouvelle République.
Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.
Oh, ce qu'il en reste en tout cas. Merci beaucoup Sébastien, on vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau point sur l'actualité.
Un peu de soleil.
Un peu de soleil.
J'en ai pas
un peu de
Rihanna
pour la météo de Peggy. Allez,
voilà.
Allez-y Peggy.
Ce que vous l'avez dit Julien, elle est pourrie.
Ah voilà. Oui, c'est pas.
On a bien
compris.
On a une perturbation qui va traverser le pays de l'ouest en est.